puissance de l'unité dans l'unicité. Et si, pour ceux qui étaient là, par rapport à mes deux précédents messages, Dieu avait vraiment, nous avait vraiment interpellés sur le fait que Dieu nous voit au milieu de la foule, il sait qui on est, il sait quand on est né, il connaît tout de nous, tout de notre vie. Et ça, c'était lorsque je prêchais sur les fleuves d'eau vive au mois d'avril. Et au mois de novembre, quand j'avais prêché, j'étais revenue sur le fait que l'œil de Dieu nous voit, l'œil de l'Éternel nous voit, et on avait vu ensemble, eh bien, comment Dieu pouvait voir chacun de nous, tous les attributs de Dieu, comment est-ce que c'était possible, et aussi jusqu'où Dieu pouvait nous voir, jusqu'où Dieu était capable de nous sonder en tant qu'homme, ce qui nous met forcément aussi, pardon, en responsabilité devant lui. Parce que ce qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas, un jour on sera tous face à lui. Et un jour, il ouvrira les livres et il regardera. Il regardera si on est dans le livre de vie ou non. Il regardera aussi nos œuvres et on sera jugé sur nos œuvres. Et alors que nous sommes, eh bien, uniques et que nous avons donc notre relation unique avec Dieu et qu'on rendra compte personnellement devant Dieu, eh bien, il est important pour moi de boucler la boucle et de parler de l'importance de l'unicité dans le corps de Christ. Et c'est important d'en parler parce que l'unicité, c'est pas l'individualisme. C'est des mots parfois qu'on pourrait dire, tiens, ça se ressemble, mais non. L'unicité ne veut pas dire être individuel. L'individualisme, on sait, dans son aspect négatif, c'est l'égoïsme, c'est tout centré sur soi, c'est penser à soi avant, etc. Mais le fait de mettre en relief l'unicité d'une personne, c'est mettre en relief le fait que nous sommes tous différents. Il y a personne qui est comme moi et je suis pas comme vous, personne d'autre n'est comme vous. Nous sommes tous uniques et nous avons tous donc, eh bien, notre histoire, notre caractère, notre personnalité, nos talents, notre sensibilité ou notre dureté de cœur. Et c'est important d'en parler parce qu'on est dans une société finalement qui est dans différentes mouvances. À la fois, on nous balance plein de libertés, jusqu'à notre liberté de choisir notre identité de sexe. Mais en même temps, on n'a pas le droit de penser différemment. Si on a le malheur de penser différemment, on est tout de suite des rebelles, des contestataires, etc. Et on n'a plus le droit d'avoir l'esprit critique. Il faut la pensée unique, il faut penser comme tout le monde pense. On n'a pas le droit d'avoir un parcours différent, d'avoir une pensée différente. Et c'est important de garder, nous, en tant que corps de Christ, cette unicité, cette capacité à penser, à réfléchir, à avoir un regard critique sur les choses et ne pas se dire qu'on est juste des moutons à être appelés à être clonés les uns les autres et à ne plus avoir notre identité, notre valeur, notre unicité. Et l'unicité est donc capitale. Elle est capitale dans le corps de Christ et dans un collectif, dans n'importe quel groupe, elle est capitale. Et un collectif qui devient trop fort, eh bien, on le voit, il n'y a plus d'unicité, il n'y a plus de personnalité. Les gens se ressemblent tous, ils sont un peu tous pareils. On n'ose pas, en fait, la différence va venir insécuriser. Si quelqu'un a une idée que toi, tu n'avais pas, bah, alors t'aimes pas. Si quelqu'un est différent de toi, une personne est différente, tu n'aimes pas. L'autre, la différence est perçue comme une menace. Et si on prolonge la différence perçue comme une menace, on en vient à la haine et à la haine sous toutes ses formes, et notamment la haine raciale. Donc c'est important de dire que Dieu a voulu cette unicité dans le monde, mais pour le corps de Christ. Et l'apôtre Paul va poser merveilleusement ce principe d'unicité. Le fait que l'unicité est essentielle pour le corps de Christ, et l'apôtre Paul va nous dire qu'il ne peut pas y avoir de corps de Christ sans unicité, sans personne unique. Et je vous invite à prendre 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 21, tout d'abord. Et l'apôtre Paul va nous dire ce qui suit. Il va nous dire, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Si l'oreille disait « puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Amen. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? S'il n'y avait qu'un seul organe, qu'une seule typologie de personne, où serait le corps ? Et si tu peux afficher donc 1 Corinthiens 12 et verset 27, on va sauter un petit peu. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Le corps de Christ ne se résume pas à moi. Certains diront ouf. Le corps de Christ ne se résume pas à toi. Je pourrais peut-être dire ouf ou dommage. Le corps de Christ, c'est chacun d'entre nous réunis ensemble, dans notre unicité, dans notre personnalité, dans notre caractère, dans notre histoire de vie, avec les dons que Dieu a donnés pour chacun d'entre nous, pour l'édifice du corps de Christ. Amen. Moi, à moi seul, oui, Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais à moi toute seule, je ne suis pas le corps. À toi tout seul, tu n'es pas le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est tous ensemble. Amen. Alors, nous sommes au bénéfice des uns et des autres. Nous sommes au bénéfice de nos dons, de nos forces, de ce qui est bien en nous, de ce qui est bon en nous, de ce que Dieu a déposé en nous. Et ce serait dommage de nous priver les uns des autres, de se priver des dons des uns des autres. Mais il faut se le reconnaître aussi que on doit se supporter les uns les autres. On doit supporter les failles, les faiblesses. Et selon qui on est, eh bien, il y a des choses qui vont plus ou moins nous agacer. Pour certains, ça va être le manque de ponctualité des autres. Pour d'autres, ça va être le caractère bien trempé. Pour certains, ça va être ceux qui on va supporter les plus lents. Pour d'autres, on doit supporter les plus speed, les plus extravertis, les introvertis. On doit se supporter. Autant on peut vivre plein de bonnes choses et autant, c'est vrai, parfois, on s'irrite. Mais ça, c'est le corps de Christ. Ce sont les uns et les autres. Et l'apôtre Paul le dira en disant « Supportez-vous les uns les autres !» Mais on a deux possibilités dans cette distinction, dans cette différence, dans nos failles, dans nos faiblesses. Et forcément, ce qui est facile, c'est dans nos forces et le fait qu'on est au bénéfice des forces et des dons des uns des autres. Et le Seigneur m'a interpellée sur ça en disant, on peut être frustrés les uns les autres. Et un jour, on peut tous se dire, en fait, et ça peut tous nous arriver, en fait, j'ai pas envie d'aller à l'église ce matin. Je suis trop blasée de ce que j'ai entendu, d'une remarque qu'on m'a faite, d'un comportement de quelqu'un, et parce que lui, il est comme ça, et parce qu'il est comme ça, et parce qu'on m'a dit ça, et parce que c'est comme ça, et parce que je dois encore supporter un tel et un tel. Mais le Seigneur me disait, gardez le bon combat de la foi. On est tous appelés à persévérer. Et c'est très facile, en fait, de se regarder tout le temps sous la lunette de « j'ai capté la faille chez un tel ou un tel ». On peut passer notre temps à ça, de dire « lui, j'ai bien repéré, c'est ça sa faille, c'est ça, et il y a fort caractère, elle est en retard, elle c'est ci, lui c'est ça ». On peut tout le temps être comme ça et finalement ne plus que se voir sur l'aspect péjoratif de une faiblesse. Mais peut-être que moi, je te vois aussi sous une faiblesse. Et en fait, on peut rentrer dans ces rapports de force de nos forces, nos faiblesses, nos forces, nos faiblesses, et se voir, et finir par se voir uniquement sous nos faiblesses. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous demande, de se voir sous nos faiblesses tout le temps? Et d'en avoir marre, en fait, des uns des autres. Et Dieu va me dire, il faut que vous persévériez. Et l'apôtre Paul dira, gardez le bon combat de la foi. Gardez le bon combat de la foi. Exercez la charité. Croire profondément que c'est au sein du corps de Christ. Et moi, c'est ce qui m'a toujours gardée. C'est je crois profondément que c'est au sein du corps de Christ que je vivrai des bénédictions que je ne vivrai jamais nulle part ailleurs. Parce que la Bible dit qu'il y a une rosée qui descend, une bénédiction qui descend sur l'assemblée jusque dans l'éternité. Amen. Et ça, c'est pas pour je ne sais qui, c'est pas pour je ne sais quel groupe, c'est pas pour des clubs de foot ou je ne sais quoi, des stars. Non, c'est pour nous les chrétiens, pour nous qui avons reconnu être pauvres pécheurs. Il y a une bénédiction quand on s'assemble ensemble. Et je peux le confesser de ma bouche et je le confesserai jusqu'à la fin de ma vie, même quand les dents sont dures. Pour les uns, pour les autres, dans l'église, eh bien, j'ai toujours vu qu'il y avait une bénédiction qui n'y avait nulle part ailleurs. Et la bénédiction que l'église a, c'est la présence de Dieu. Nul autre, la présence de Dieu. Rien que ça, mais tout ça, la présence de Dieu. La présence de Dieu parmi nous, qu'on ne trouvera jamais dans une autre association, dans un autre groupe qui n'est pas là à confesser le nom de Jésus. Amen. Oui, on peut applaudir. Et si nous n'acceptons pas de nous supporter ou d'être au bénéfice des uns des autres, on ne peut pas en fait rentrer dans la complémentarité à laquelle Dieu nous a appelés. C'est pour ça que j'ai démarré et que j'ai aussi parlé dans mon titre l'importance en fait de l'unité, dans l'unicité. Parce qu'on ne peut pas viser la complémentarité quand on n'est pas dans le respect des uns des autres et de notre unicité et de qui nous sommes. Un extraverti ne sera jamais un introverti. Un introverti ne sera jamais un extraverti. Même s'il est sous la présence de Dieu, il va toujours vivre les choses différemment. Un calme, un passionné, un fougueux, on ne va pas vivre les choses de la même manière. Mais on se doit le respect. On se doit le respect dans la communion fraternelle. Amen. Et il y a un pasteur comme ça qui était dans le temps de la Seconde Guerre mondiale, c'était Dietrich Bonhoeffer, et il dira en fait qu'il est important de se respecter les uns les autres, où l'Église, c'est la communion fraternelle, c'est d'être au bénéfice. Il faut reconnaître qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes, on a besoin des uns et des autres. Et ce pasteur, il prendra vraiment position par rapport à la haine qu'il y avait à ce temps-là contre les Juifs par rapport aux nazis. Et parce qu'il aura pris des positions tellement fortes au niveau du respect des uns des autres et notamment du respect des Juifs, ce sera un pasteur qui va être exécuté par Hitler directement. Mais parce qu'il savait à quel point c'était important de se respecter les uns les autres, peu importe d'où on vient, du pays dont on vient, qui nous sommes. Nous avons le devoir de se respecter dans notre unicité. Mais notre unicité ne veut pas dire être égoïste, ne veut pas dire être individualiste. Et je vais vous inviter, on va suivre un peu deux personnages, Pierre et Jean. Et on va le voir, ils étaient différents et pourtant c'était des amis ultra complémentaires. Et ils ont été bénéfices et ils ont pu vivre des choses formidables dans l'œuvre de Dieu ensemble. Et donc Pierre et Jean, ils font partie des 12 disciples qui ont été choisis par Jésus. Ils étaient avec Jésus au temps où Jésus était ici-bas. Et souvent la Bible nous parle de Pierre, Jean et Jacques, mais je vais vraiment me concentrer sur Pierre et Jean. Et Pierre et Jean, donc, tous les deux vont devenir apôtres. Mais il peut y avoir des apôtres, les mêmes ministères ou des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, etc., avec des onctions différentes et avec un caractère différent. Donc les 12, ils font partie des 12. Les 12 qui vont être apôtres, mais pas le même appel et pas la même onction. Et on va prendre un premier épisode, c'est Jean 13, versets 21 à 26. Et donc là, c'est lorsque Jésus est lors de son dernier repas avant de vivre la passion. Et alors qu'il va vivre la passion, Jésus, il nous est dit, fut profondément troublé. Et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ?» Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariot. Il faut savoir que dans ce passage, quand il est dit le disciple, que Jésus aimait, il s'agit de Jean. Jean, en fait, était... Donc, Jésus va à un moment donné dire aussi dans cette même soirée que tous ceux qui sont là, tous les disciples qui sont présents sont ses amis. Jean a la particularité de dire et d'écrire le livre de Jean quand il va écrire ses écrits. Il va toujours se nommer celui que Jésus aimait. Non pas que Jésus aimait plus Jean que quelqu'un d'autre, c'est que Jean avait la certitude qu'il était l'ami de Jésus. Parce que Jésus, en tant qu'homme, ici-bas, il surfait pas, il était pas absent d'émotions, il avait pleinement des émotions. Il s'était pas un homme surfé qui avait aucune émotion, bien au contraire. Et donc, dans toutes ces émotions, en tant qu'homme, eh bien, Jésus était proche de Jean, et Jean était proche de Jésus. Et Jean, eh bien, avait la certitude qu'il était son ami. Donc, il va toujours parler comme ça. Pour autant, Jésus aimait tous les autres disciples. OK, il n'y avait pas de préférence, il n'y avait pas de chouchou. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Pierre, au lieu de s'adresser à Jésus directement, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit à Jean, hey, « Hé, toi, pose la question à Jésus. Demande-lui. » Parce que Pierre savait que Jean était très proche de Jésus. Et quand on dit que Jean était couché sur Jésus, c'est parce qu'à cette époque-là, c'était des petits fauteuils qui étaient très bas sur le sol. Alors on était quasiment avachis. Ils étaient un peu allongés, avachis, ils mangeaient comme ça. Donc Jean était très proche de Jésus. C'était les signes culturels de l'amitié. Et Pierre ne va pas poser la question directement à Jésus. Pourtant, Pierre est un homme fougueux. Pourtant, Pierre, il y va. Mais là, il passe par Jean parce qu'il sait que Jean, eh bien, est très proche de Jésus. Je vous invite à prendre, on va avancer dans leur histoire et on va passer au passage où tu peux afficher Jean 18, versets 10 à 11. Et là, c'est l'épisode où ils sont dans le jardin de Gethsémané. Et dans le jardin de Gethsémané, eh bien, si, alors que Jésus, là, va être arrêté, il faut se rendre compte qu'ils sont pas juste venus juste comme ça, les mains dans les poches, les soldats sont arrivés, ils étaient armés, ils étaient remplis de haine vis-à-vis de Jésus. Et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Pierre, eh bien, il va prendre une épée, il va la tirer, il va frapper le serviteur du grand prêtre et il va lui couper l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et en fait, juste avant que Pierre sorte son épée, Jésus va dire plusieurs fois aux soldats, « C'est moi qui suis Jésus, vous êtes venus me chercher, laissez-les partir. » Et Pierre, dans sa fougue, il veut donner sa vie pour Jésus, il va donner un coup d'épée. Mais Pierre, c'est un pêcheur, c'est pas un soldat, il s'est pas visé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il sort l'épée, bien, il vise l'oreille, il vise mal. À la base, qu'est-ce qu'il aurait aimé faire? Il aurait aimé tuer le soldat qui est en face de lui. Mais dans sa fougue, en tant que pêcheur, lui qui sait pas manier les armes, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à couper l'oreille. Mais à cet instant-là, lui qui avait dit auparavant, je donnerai ma vie pour toi, Seigneur, moi je le ferai, les autres ils le feront pas, hein. Mais moi je vais le faire, moi Pierre, moi le grand Pierre, moi je vais donner ma vie pour toi. À cet instant-là, Pierre il fait un truc de malade parce qu'il est en train de mettre la vie de tout le monde en danger. Quand ils viennent chercher Jésus, à la base ils auraient aimé prendre tout le monde, ils auraient aimé tuer tous les disciples, rien de mieux que couper la tête de tous ceux qui portent l'évangile. Là, à cet instant-là, qui porte l'évangile? Jésus et ses disciples. Donc si on les tue tous, les pharisiens ils sont tranquilles. Donc Pierre, il fait un truc de fou. dans sa fougue, lui qui aime Jésus, il veut donner sa vie, à cet instant-là, il est prêt à perdre sa vie, mais il est prêt à ce que tout le monde perde sa vie. Et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas perdre leur vie, malgré la fougue et ce qui est en train de se passer? Parce que Jésus prend autorité. Jésus lui dit, toi, tu remets ton épée dans ton fourreau, et moi, je vais boire la coupe qui m'est destinée. Sinon, ils étaient tous cuits. Parce que Pierre pensait bien faire dans sa fougue. Les fougueux, vous reconnaissez, vous pensez bien faire. Il va vite, il va très vite, il est fonceur en parole. Lui qui a dit qu'il donnerait sa vie, qui irait jusqu'au bout avec Jésus. Au prétoire, qu'est-ce qui se passe? Il y va, il ose y aller. En même temps, c'est le seul qui a osé se rapprocher aussi près de Jésus. Il y va, il rentre, là, il fait noir. Une femme déjà le reconnaît et lui dit « Hé, tu serais pas Pierre? Celui qui traînait avec Jésus, tu fais pas partie de sa bande ?» Ah non, 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 non. Ensuite, il est encore interpellé. « Mais si, on te reconnaît, t'es Pierre !» Ah non, 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 non. Puis encore une troisième fois, et le coq se mit à chanter. Pierre va renier Jésus, lui qui déclarait dans sa fougue, il parle vite. Et c'est vrai qu'en même temps, on lui jette vite la pierre en disant, ah, vous vous rendez compte, il a renié Jésus trois fois devant tout le monde. En même temps, c'était le seul à être à côté de Jésus, il voulait voir. Et peut-être qu'il a renié Jésus à ce moment-là parce qu'il avait peur pour sa vie, mais il était tout près de Jésus. Mais dans sa fougue, et Jésus lui a montré en disant, finalement, tu parles vite, mais tu verras que malgré tes affirmations, malgré tes convictions, toi, l'homme fougueux, tu vas me renier. Et à cet instant-là, c'est vrai, il n'y a que Pierre. Et à un autre moment, eh bien, c'est Jean qui va être seulement tout près de Jésus. Je vous invite à prendre Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus, donc là, Jésus est sur la croix, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, donc Jean. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc, là, à ce moment-là, Jésus est sur la croix. Il y a des soldats autour. Il y a les ennemis de l'Évangile qui sont autour. Il y a ceux qui sont là, ravis de voir Jésus sur la croix et qui ricanent que Jésus est sur la croix. Mais qui se tient au pied de Jésus? Qui se tient tout près? Il est dit sa maman, sa tante et Jean. Jean qui est là. Personne d'autre. Le fougueux Pierre. Il a pris la poudre d'escampette, il n'est pas là. Et Jean, celui, on verra, qui est plus calme, qui est plus sensible à l'esprit, là, c'est lui qui est là. Pierre, il est absent. Jean est présent. Jean est présent devant la croix. Il est en train de prendre un danger de dingue pour sa vie. Mais tout son amour pour Jésus lui fait outrepasser le danger et il se met devant Jésus. Il est en danger de mort, Jean, à ce moment-là. Et il est tout seul. Tous les autres disciples, ils ont disparu. Alors Jésus va lui confier sa maman. Il la confie pas à Pierre. Il la confie pas à l'homme fougueux. Il la confie pas à celui qui a le fort caractère. Il la confie pas à celui qui a failli tuer, un ennemi. Il la confie à Jean. Parce que Jean, à cet instant-là, c'est lui qui est présent devant Jésus. Celui qui est peut-être plus discret, plus sensible, Jésus va lui remettre sa maman. Et pourquoi Jésus fait cela? Parce que, et tous les théologiens s'accordent, Jésus a perdu son papa auparavant. Sa maman était veuve, d'accord? Et si Jésus a démarré son ministère qu'à l'âge de 30 ans, c'est pas parce qu'il n'était pas assez près auparavant, il était plus près que nous, il faut le savoir quand même. Jésus, s'il avait démarré son ministère à 30 ans, c'est parce qu'en tant que fils aîné, il avait la responsabilité de prendre soin de sa maman veuve et de ses frères et sœurs qui étaient plus petits. Alors lui, il va attendre avant d'entrer dans le ministère, mais il était prêt depuis longtemps, Jésus. Mais il va démarrer à 30 ans. Et là, quand il est sur la croix, parce que sa maman est veuve, eh bien, il la remet entre les mains de son ami Jean, qui se tient à ce moment-là devant la croix. Pas à Pierre, pas à un autre, à Jean, qui est là, à ce moment-là, présent. Nous avons tous des caractères, des personnalités différents, des moments où nous savons être présents, des moments où nous sommes moins présents. Mais Jésus sait ce qu'il doit faire avec chacun d'entre nous. Il sait à qui il peut confier, qui, quoi, quand, comment. Amen. Je vous invite à continuer, eh bien, l'histoire entre Jean et Pierre. Et on va arriver maintenant au moment où Jésus, eh bien, il a été mis au tombeau et il va être ressuscité. Si tu peux prendre Jean, chapitre 20, versets 1 à 8. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, lui, il arrive et qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, donc Jean, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. Et ce passage-là, si on le décortique, il est super intéressant dans la personnalité des disciples et ce que l'un va comprendre et ce que l'autre ne va pas forcément capter. Pierre et Jean, ils se dépêchent. On leur dit que Jésus n'est plus dans le tombeau, ils courent. Alors Jean est plus rapide que Pierre, Jean est plus jeune. Ils y vont tous les deux. Et ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que on va les retrouver à deux alors que Jésus est mort. Ça veut dire qu'ils sont vraiment proches. Ils passent encore du temps ensemble alors que Jésus n'est plus là. Ils n'étaient pas juste ensemble. Quand Jésus était là, ils sont ensemble malgré que Jésus soit mort. On les retrouve à deux. C'était de réels amis. Ils vont au tombeau. Et la parole de Dieu nous dit, Jean, lui, il s'arrête. On dit qu'il reste au bord. Et on nous dit que Pierre, lui, il fonce dans le tombeau. Ça fait partie des fougueux, de ceux qui vont toujours à fond. Eux, ils arrivent, ils défoncent tout, bam, il va au fond du tombeau. Lui, il veut voir. Lui, non, Jean, il reste au bord. C'est un plus discret, un peut-être plus cool, un plus sensible. Il avait peut-être pas trop envie de se mouiller. Il reste au bord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit, c'est ce que la parole de Dieu nous dit que Jean va croire en quelque chose. En quoi peut-il croire quand il va au tombeau? Il n'y a plus rien. Il pensait peut-être voir Jésus en disant, Marie s'est trompée, il n'y a plus rien. En quoi croit-il? Pourquoi la Bible nous dit, il crut, que Jean crut en quelque chose quand il a vu quelque chose dans le tombeau? Eh bien, il va croire au fait que Jésus est ressuscité parce qu'il va voir comment les draps sont mis à l'intérieur du tombeau. Et en français, c'est mal expliqué. On parle de bandelettes. On a toujours l'impression qu'on est en fait comme chez les Égyptiens où on est rempli de bandes. Sauf qu'en fait, Jésus s'est dit, il a été enterré tel que les Juifs le font. Et tel que les Juifs le font, c'est avec un grand drap, ce qu'on appelle à linceul. Jésus, son corps a été entouré d'un grand drap. Et c'est horrible d'en parler, mais forcément, pour fermer la bouche d'une personne décédée, eh bien, on a mis en fait un linge autour comme ça. Il était noué, d'accord? Et le grand drap est passé au-dessus, ok? Jésus, quand il ressuscite, il n'est plus du tout limité aux forces naturelles et aux forces physiques d'ici-bas. Quand il ressuscite Jésus, il passe à travers les draps. Alors, le grand linge, le linceul, il retombe l'un sur l'autre, comme si, en fait, il était passé à travers. Et le linge qui tenait sa mâchoire, qui fermait la bouche, il est resté à l'intérieur. Et Jean, il voit ça, la manière dont les linges sont posés dans le tombeau. Et quand il voit ça, eh bien, il crut. Il crut que Jésus est ressuscité. Lui, Pierre, il arrive comme un bourrin. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Il arrive, ok, Pierre, Jésus n'est pas là, mais il s'est pas dit qu'il crut. Jean, lui, a vu quelque chose que Pierre n'a pas vu. Jean avait une sensibilité spirituelle et prophétique que Pierre n'avait pas. Amen. Et Jésus est ressuscité avec un corps glorifié. Et quand la pierre a été roulée, c'est pas pour que Jésus passe, hein. La pierre a été roulée pourquoi ? Pour que ceux qui étaient là à l'époque puissent entrer dans le tombeau et voir que Jésus est ressuscité. Jésus, il pouvait passer à travers les murs. Il était plus soumis à une force physique terrestre. Vous comprenez ? Vous me suivez ? Jean a capté ça. Pierre, il n'a pas capté. Il est allé, il est arrivé. La pierre, l'ange, a roulé la pierre pour qu'il puisse découvrir que Jésus est ressuscité. Pas Jésus, il n'avait pas besoin qu'un ange vienne rouler la pierre pour sortir. Amen. Jean comprend le sens, Pierre ne le comprend pas. Jean a une compréhension spirituelle que Pierre n'a pas. Si Pierre, lui, et Jean, il est dit qu'il comprend, mais il n'en parle pas. Si Pierre avait compris, connaissant Pierre, l'homme fougueux, lui, il l'aurait crié partout. Il aurait déjà dit, hé, les linges, ils ont été mis l'un sur l'autre. Jésus est passé au travers, Jésus est ressuscité. Jean, il ne le dit pas, il le garde pour lui. Un Pierre, ceux qui sont comme Pierre, il aurait crié sur les toits. Maintenant, je vous invite à prendre, on va prendre Jean 21, versets 1 à 8. Et là, c'est Jésus qui va se révéler aux disciples. Et là aussi, c'est intéressant de voir, eh bien, les sensibilités et les deux caractères. Jean, chapitre 21, versets 1 à 8. Donc, Jésus s'était déjà montré, donc, plusieurs fois. Et là, il va se remontrer aux disciples. Donc, il est ressuscité. Attends, j'ai pas lu le premier verset. Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus, se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « Hé, c'est Jésus. C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et il se jeta dans le lac. Et là, il n'a jamais nagé aussi vite, il a fait le chrono de tous les temps. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Eh bien, ce passage-là, il est super intéressant. Déjà, Pierre, en homme fougueux, en homme leader, il dit quoi ? Je vais pêcher, tout le monde le suit. Ça, c'est la capacité des leaders. Ils disent un truc, tout le monde les suit. Il y en a un, Jean, il aurait peut-être fait pareil, il n'y aurait peut-être eu personne avec lui. Pierre, il dit, on va pêcher, bah ok, tout le monde y va. Et qui va distinguer encore une fois que l'homme qui se tient sur le rivage, c'est Jésus ? Eh bien, c'est Jean. Parce qu'il a cette sensibilité-là, c'est comme ça. Ça peut agacer, ça peut être embêtant pour les plus fougueux. Mais ben c'est Jean qui a cette sensibilité-là. Mais Pierre, en même temps, lui, il dit un truc, bam, tout le monde le suit. Jean lui dit, Jésus est là, il réfléchit même plus. Il nage, alors qu'on dit que finalement, il était pas loin, il aurait pu attendre que le bateau se rapproche. Lui, non, il sait plus attendre. C'est, ah, Jésus est là, j'y vais. Et en plus, Pierre, il avait besoin de parler avec Jésus par rapport au fait qu'il avait renié. J'en parlerai pas ce matin, mais... Il y a une magnifique complémentarité entre Jésus et entre Jean et Pierre. Acte 3, versets 1 à 8. Là, on va parler de l'homme qui était boiteux. Et c'est intéressant de voir. Acte 3, versets 1 à 8. Il nous y dit qu'il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Puis, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Pierre, rempli de l'esprit, il est avec Jean, ils vont au temple, ils voient l'homme boiteux, et là, il lui dit « Lève-toi et marche ». Mais ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, on imagine la scène, que quand Pierre dit ça, l'homme se lève. Non, non, c'est la faute de Pierre, elle est encore plus loin. Il dit, il lui prit la main, il va le prendre, il va le lever. Déjà, il faut y aller de dire, lève-toi et marche, et de s'attendre au miracle. On est d'accord, il faut de la foi. Mais Pierre, alors qu'il n'est même pas encore debout, il va lui prendre la main, il va tirer sa main, il va le lever, et l'homme va être debout. Voyez où je veux en venir. Pierre, dans sa fougue, dans sa foi, dans son assurance, il est capable de dire quelque chose, de voir encore quelqu'un de boiteux, et il n'avait jamais su marcher, assis, le prendre, le lever, et le miracle est là. Ça, c'est Pierre. C'est Pierre qui, eh bien, dans son zèle, prend le boiteux, il sait, il a l'assurance, et Pierre, on sait, c'est celui par qui le Saint-Esprit va parler, la Pentecôte, bam, 3000 âmes arrivent. Il va encore parler, à la suite de ça, Jean et Pierre vont être arrêtés, parce qu'ils vont parler dans le temple, il va encore parler, 5000 personnes, on sait, et hop, ça s'ajoutait, parce que l'Esprit avait décidé, qu'avec Pierre, il ferait des choses comme ça, des miracles, des prodiges. Mais aussi, si on parle de Jean et Pierre, par exemple, dans la Samarie, quand ils sont en Samarie, les deux, ils sont ensemble. On sait que là, la Samarie, ils sont en train de croire au Seigneur. Les deux vont imposer les mains et le Saint-Esprit va tomber. Les personnes vont être baptisées du Saint-Esprit avec un plus sensible, peut-être un plus doux, un moins fougueux, avec un plus fougueux, avec celui qui a un fort tempérament. Ils sont là, en train de servir Dieu ensemble et ils voient la gloire de Dieu ensemble. Amen. Pierre avait cette hardiesse. Pierre avait ce caractère de leader. Et Jean, il a cette finesse dans l'esprit. Il a cette réserve, mais cette finesse. Et Jean, lui, Dieu lui donnera cette révélation qui est nommée dans la Bible l'Apocalypse. C'est à Jean que le Seigneur lui donnera. Mais avec Pierre, il fera des prodiges et des miracles. Et ensemble, ils feront des prodiges et des miracles. Et peut-être que tu te reconnais plus en Pierre. Peut-être que tu te reconnais plus en Jean. Ou peut-être que tu es un peu des deux. Il y a des moments où tu es un peu comme Pierre. Il y a des moments où tu es un peu comme Jean. Mais tous les deux, que peu importe le caractère que tu as et qui tu es dans l'Église et ta part que tu as dans le corps de Christ, il nous est dit que tous les deux étaient amis de Jésus. Ils avaient des forces et des faiblesses. L'homme fougueux qui parle trop vite et qui réfléchit après, celui qui est plutôt sur la réserve, qui ne dit pas toujours tout de suite, qui garde pour soi. Mais ils avaient ce profond respect. Quand je réfléchis à Pierre et Jean, et ça fait très longtemps que j'avais à cœur ce message-là, et Dieu ne m'avait jamais donné le go, donc je suis contente qu'il me l'ait donné maintenant, je me dis, comment se fait-il que deux personnes si différentes puissent aussi bien s'entendre dans l'œuvre de Dieu. Comment se fait-il? Franchement, humainement, les fougueux, ça vous agace les gens qui sont un peu plus tempérés, qui sont plus lents, qui sont plus cool, et les plus discrets, ça nous agace quand eux, il y a des plus extravertis, etc. Charnellement, ça passe pas. Charnellement, ça passe pas. Mais ensemble, ils y arrivent. Et c'est un merveilleux exemple de la complémentarité. Alors, pourquoi ils y arrivent ? Ils y arrivent parce qu'ils ont un profond respect l'un pour l'autre. Ils y arrivent parce que ils sont amis. Ils s'aiment véritablement. Pas en mode surfer, t'es mon ami, hein, je t'aime bien. Non, non, ils s'apprécient. Ils s'apprécient vraiment dans leurs différences. Dans leurs différences. Et dans, ils apprécient leur complémentarité. Ils s'aiment véritablement. Ils s'apprécient. Il n'y a pas de jeu de domination, le plus fort, le plus faible, un des jeux. Vous savez, parfois, on ressent ça dans les relations. Je prends l'ascendant sur toi, je te domine, j'ai un plus fort caractère. Non, non, il n'y avait pas de tout ça. Sinon, ça passe pas. Sinon, ils font pas 3 minutes ensemble, franchement. C'est impossible. Ils ont le respect de leur personnalité. Et ils sont pas là à s'accuser, franchement, Jean. Il avait une occasion de dingue. De pouvoir accuser Pierre, de lui dire « Hey, t'as vu toi qui parle toujours si vite là ? T'as vu ? Bah finalement, hey, toi t'as renié Jésus 3 fois. Hein ? Franchement, charnellement, c'est facile. Là, t'as un boulevard pour accuser Pierre. Le boulevard, il est là. La Bible nous dit pas que Jean a accusé Pierre. Jamais. Non, ils nous disent qu'ils étaient ensemble. Et Pierre, il n'y a jamais été dit à Jean, et toi, t'étais où ? T'étais où ? Quand moi, j'étais dans le prétoire, je l'ai peut-être renié, là, Jésus. Mais toi, t'étais où ? Non. Et Jean, il ne s'amuse pas à dire, ben moi, quand Jésus, il m'a confié sa maman, t'étais où ? Et là, hop, on compte les points. De qui est le plus fort, plus faible, mieux, moins bien ? Non, il n'y a pas de ça entre eux. Alors, ça marche. Parce que qu'est-ce qui marche pour eux ? Ça marche parce qu'ils savent que s'ils sont ensemble, ils le doivent à qui ? Et si on est ensemble ce matin, on le doit à qui ? On le doit à qui ? On le doit à qui ? À Jésus ! Qui est la pierre angulaire de l'Église ? Qui est le fondement ? On l'a chanté ce matin, le roc infaillible. On est tous infaillibles, peu importe ton caractère, ta personnalité, l'onction que Dieu a mis sur toi, t'es faillible, je le suis. Mais il y en a un seul qui n'est pas faillible et qui n'a jamais failli. Jésus Christ. Pierre, rejeté par les hommes, mais pierre angulaire et pierre d'angle de l'Église du corps de Christ. Amen. Ouais, on peut applaudir. On peut l'applaudir. Jean et Pierre savaient que le fondement de leur relation, savaient que l'onction et l'œuvre dans laquelle ils entraient, tout n'était dû que grâce à Jésus-Christ qui venait de donner sa vie sur la croix. Amen. Et on va revenir sur Jésus, justement, la pierre angulaire. Et on va prendre le passage de Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 19. Et c'est important de revenir à ce qui s'est passé à ce moment-là entre la déclaration de Pierre et ce que Jésus va dire. Donc Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 19. Il est dit, donc à ce moment-là, Jésus va questionner les disciples en disant, on dit quoi de moi ? Et donc ils vont dire, ah bah les uns disent que tu es un tel. Et Jésus va dire, mais vous là, vous mes disciples qui avez traîné avec moi pendant autant de temps, vous dites que je suis qui ? Et là Simon Pierre répond, il lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Amen. Lorsque Jésus dit à Pierre, eh bien, il lui dit, tu viens de proclamer quelque chose par le Père. Et c'est la première fois, quand Jésus dit que c'est sur, sur cette pierre qu'il bâtira son église, il n'est pas en train de bâtir son église sur un homme. Hein. Il n'a pas bâti l'église sur Pierre. D'accord ? Il a bâti son église sur le fait qu'il y a eu la révélation que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu. Et Pierre a été le premier à le proclamer en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu » par révélation. C'est le premier parmi les disciples qui le proclame, ok ? Et parce qu'il le proclame, alors Jésus qui lui disait « Toi qui es fils de Jonas », maintenant il appelle Pierre, il lui donne son nouveau nom. Son identité en tant qu'homme spirituel. Il lui fait comprendre que là, il vient de parler de manière surnaturelle, qu'il vient de parler par la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus lui dit, tu es Pierre et sur ce rocher, je construirai mon église. L'église, le corps de Christ appartient à Jésus-Christ, ok? Amen. Il dit mon église et c'est la première fois qu'on va parler de l'Église. Jusqu'à maintenant, on parlait de royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on parle de royaume de Dieu, on va prophétiser la venue de Jésus. Mais l'Église, l'arrivée de l'Église, elle se fait quand ? Quand Jésus va mourir. Là, Jésus, il est en train de préparer, il est en train d'annoncer la naissance de l'Église. Il est en train de dire, je construirai mon Église. Mais pour construire l'Église, il fallait la pierre. Ceux qui sont dans la construction, il faut la pierre la plus solide pour porter toute la structure, pour porter tout l'édifice. Il faut la pierre, il faut la pierre, il faut la pierre de fondation, il faut la pierre d'angle, il faut cette pierre qui va donner les mesures, il faut cette pierre qui va donner la direction. Une pierre d'angle, eh bien, vous donne un périmètre. Et sur cette pierre d'angle, on pouvait poser toutes les autres pierres. Mais si tu les poses hors dehors de la pierre d'angle, elles ne tiennent pas. L'édifice ne tient pas. L'édifice du corps de Christ ne peut tenir parce que Jésus est mort sur la croix et est ressuscité. Et il s'est fait pierre de fondation et il s'est fait pierre d'angle pour nous tous, pour que nous soyons ensemble un corps, un édifice. Amen. Et l'édifice, oui, on peut applaudir. L'édifice ne tient que par Jésus-Christ. Amen. L'édifice ne tient que par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et Jésus a déclaré que oui, il y aurait l'adversité, mais que l'adversité ne prévaudra jamais sur l'Église. Parce qu'il est mort sur la croix, parce que lui, il a remporté la victoire, eh bien l'Église, dans toute l'adversité, sera toujours victorieuse. Parce que l'Église est le corps de Christ. Et s'il n'y a plus d'Église dans le monde, il n'y a plus de corps. Après, peu importe la manière dont le corps se manifesterait, aujourd'hui nous sommes nous ici en France, on a la capacité, on a la liberté d'être ensemble, d'autres sont cachés dans des souterrains. Mais le corps de Christ existera toujours parce qu'il a gagné le combat. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dira qu'il n'y a aucune autre pierre qui ne peut être posée à la place de Jésus. Aucune autre pierre. Mais dans nos relations, si on veut que ça marche, si on veut des relations aussi complémentaires que Jean et Pierre, laissons la place à Jésus. Laissons la place à lui. Laissons-nous nous regarder les uns les autres, pas au travers de nos lunettes charnelles. Parce que franchement, sinon, on perd notre temps. Mais si on se met à se regarder sous les lunettes de Jésus, remplis d'humilité, remplis d'amour, remplis de persévérance ensemble, nous supportant les uns les autres. Alors, je vous dis tout de suite, c'est une combinaison gagnante. C'est une combinaison gagnante parce que Jésus oint les relations qui sont comme ça. Et je réfléchissais, mes meilleures relations dans l'Église, celles qui ont une valeur majestueuse devant Dieu, que Dieu m'a donnée, c'est celles où Christ a toujours été au mieux. Toujours, toujours, toujours. Avec une humilité et un amour, on ne cherche jamais à se faire mal. On s'accepte tel qu'on est. Quand il y en a une qui pleure, l'autre pleure avec. On ne se pose pas de questions. Quand il y en a une qui gagne, on se réjouit avec. On s'accepte tel qu'on est dans nos forces, nos faiblesses. Je réfléchissais à ça, je me dis pourquoi ça marche ? Parce qu'il y a cette humilité, cet amour, cette sagesse, cette retenue. Mais par contre, quand Dieu nous oint et qu'on doit y aller ensemble, Eh bien, on ne se pose pas de questions, on y va et ça cogne. Amen. Et c'est important de faire une rétrospection, de se dire pourquoi mes relations marchent ou pourquoi elles ne marchent pas. Alors, on est comme Jésus, on a des affinités forcément. Ça, c'est imparable, c'est implacable, on a tous des affinités. Mais quand tu sais que tu es appelé à servir, non seulement à juste ce côté, mais à servir Dieu ensemble, ben, ça mérite de se regarder quand même et de réfléchir comment est-ce qu'on peut se regarder avec les lunettes de Jésus. Amen. Et le pire qu'il puisse exister pour nous dans le corps de Christ, c'est finalement de devenir étroit d'esprit. C'est finalement de ne plus accepter une diversité, une culture, différentes manières d'être, différentes manières de faire. Et je vais terminer par ça. On va basculer dans l'Ancien Testament et Moïse, à un moment donné, il va être heurté justement à... Il va avoir ce deal de dire, tiens, est-ce que je vais être étroit d'esprit ou pas ? Et c'est important de voir, et je trouve ça encourageant, de voir comment est-ce qu'on peut aborder les choses pour qu'il y ait toujours l'onction, qu'il y ait toujours la présence de Dieu qui marche et qui s'installe au milieu de nous et dans nos relations, que ce soit des relations fraternelles, des relations dans le leadership. Je trouve ça important de regarder et de prendre le temps. Et je finirai par cet exemple-là. Si tu peux afficher Nombre, chapitre 11, versets 24 à 28. Et là, on est dans le désert avec Moïse, qui donc guide le peuple, ils sont dans le désert. Et le peuple vient de râler, le peuple vient de dire, nous, on a ras-le-bol de la manne, c'est bien la manne, on a envie de manger de la bonne viande, là, on a envie que nos petits estomacs mangent autre chose. Et donc, Moïse va consulter Dieu et il va lui dire, mais moi, tu me donnes une charge de dingue, ce peuple-là, c'est pas moi qui l'ai fait naître. Là, j'en peux plus, je suis à bout, j'ai besoin d'aide. Et donc, Dieu va lui donner la directive de prendre 70 anciens. Il dit, je vais souffler sur eux. Donc, Moïse, il vient rapporter les paroles au peuple. Et il dit, il rassembla 70 hommes, pris parmi les anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et il dit, « Moïse, Seigneur, empêche-les-en. » Alors, n'affiche pas la suite, « empêche-les-en. » Selon vous, alors, qui connaît ce passage-là ? Qui connaît l'absence de... Donc, Sandy, tu n'as pas le droit de parler. Donc, Eldad et Médad ne vont pas se présenter à la tente. Mais l'Esprit de Dieu tombe sur eux parce que Dieu l'a ordonné. Qu'est-ce que va faire Moïse ? Par rapport à ce que Josué lui dit. Est-ce qu'il va les arrêter ou est-ce qu'il va les laisser continuer, franchement ? Lui, Moïse avait donné un ordre. Il avait dit, les 70, là, vous rappliquez à la tente d'assignation, Dieu a donné un ordre, l'Esprit de Dieu va descendre sur vous, vous allez être loin par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire, Moïse ? Vous avez le droit de répondre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va les arrêter ou il va les laisser continuer parce que Josué dit, hé, ils sont en train de prophétiser, là. Il les arrête ou il les laisse continuer ? Il laisse continuer ? Bonne réponse, tu peux afficher la suite. Si tu peux remettre donc Nombre 11, Moïse lui répondit, et c'est intéressant ce qu'il répond, il dit, « Est-ce que tu es jaloux pour moi ? Est-ce que tu es jaloux pour moi ? Si seulement tous les peuples de l'Éternel étaient composés de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Moi, le comportement de Moïse me scotche. Moïse, chef du peuple qui les a fait sortir d'Égypte, il donne un ordre, il dit « Vous devez venir là, l'Éternel a donné un ordre, il donne l'ordre de l'Éternel. » T'as Josué là qui vient lui dire « Hé, faut les arrêter. » Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Tu serais pas jaloux pour moi ? Et c'est intéressant parce qu'il soulève quelque chose. Souvent, on parle de jalousie, mais genre, moi, je suis jalouse de toi et vice-versa. Là, on parle de personnes, et ça peut vraiment venir mettre de l'animosité dans les relations, ça peut vraiment ternir les relations. C'est pas quand toi, t'es jaloux, mais c'est quand les autres sont jaloux pour toi. En gros, t'as des gardes du corps. Et Josué, il se fait garde du corps de Moïse. Josué dit, hé, là, ils sont en train de prophétiser alors qu'ils auraient dû être devant la tente, là. Et Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, moi, je touche pas. Dieu est Dieu. Il a décidé de mettre son onction sur ces deux-là. On ne sait pas du tout pourquoi. On pourrait inventer 10 000 justificatifs de leur absence. On ne sait pas pourquoi. La Bible ne dit pas pourquoi ils sont absents. Eh bien, Moïse, il va les laisser prophétiser. Et au-delà de les laisser prophétiser, à faire naître dans le cœur de Moïse un désir, c'est de dire que toute la maison de l'Éternel soit remplie de prophètes et que tous puissent prophétiser de la part de Dieu. Il faut faire attention dans nos relations, et ça peut venir ternir des relations. C'est, il y a des personnes qui peuvent être nos gardes du corps. Et de dire, hé, hey, toi qui prophétises, bah regarde, là, il y en a un qui prophétise. Hé, hey, regarde, toi, là, eh ben, ton fils, ta fille, même pour les parents, il faut faire attention à ne pas jalouser le fait que vous pouvez voir d'autres enfants être dans le ministère. Entre époux, c'est pareil. Ta femme prophétise pas, tu vois d'autres femmes de l'église, bah, tu peux être jaloux, en fait, pour ta femme. Et vice-versa, des femmes, vous pouvez voir des hommes dans le ministère et votre mari n'est pas dans le ministère, bah, d'un coup, on peut jalouser comme ça. On se jalouse pas soi-même, mais on jalouse l'autre, en fait. On jalouse son mari, on jalouse sa femme, on jalouse ses enfants. Il faut protéger, il faut centraliser, il faut toujours mettre à l'honneur telle personne. Et Moïse, lui, s'il réagit comme ça, c'est parce qu'il est complètement désintéressé. Il est désintéressé parce que déjà, il se dit, moi, je touche pas à l'onction de Dieu. Et Jean et Pierre, ils vont être pareils entre eux, hein. Ils vont jamais toucher l'onction que Dieu a mise sur leur vie. Il ne tombe pas dans le piège d'être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire si Dieu agrée Eldad et Meldad pour qu'il soit ouin, bah qu'est-ce qu'il a à dire, lui, franchement? C'est qu'un homme. Il se fait pas plus royaliste que le roi. Et Moïse, eh bien, ne se sent pas dépositaire des dons et de l'onction que Dieu a mis. Et ça fait être très vigilant à l'église. Il n'y a personne qui est propriétaire de l'onction de Dieu. Il n'y a personne qui est dépositaire. Et dans nos amitiés, on n'est pas dépositaire les uns des autres de l'onction. C'est Dieu et ça restera toujours Dieu. Ça restera toujours Jésus qui est mort sur la croix, lui qui est allé au pressoir. Il n'y a personne dans l'église, dans nos relations, qui est dépositaire de l'onction, qui est propriétaire de l'onction. Personne. Moïse est le chef du peuple, mais il n'est pas propriétaire de l'onction. Moïse n'est pas propriétaire du don prophétique. Moïse est sécure dans son rôle de leader. Et ça peut tous nous concerner, que tu sois leader dans l'église, que tu aies des responsabilités à gauche, à droite, dans ta sphère d'influence. N'oublie jamais que tu n'es pas dépositaire et propriétaire de l'onction. Tu n'es pas propriétaire de ton prochain. Tu n'es pas propriétaire de ton frère ou de ta sœur. Tu dois le laisser libre en Christ. Et alors ça marche. Mais si on est étroit d'esprit, ça marche pas. Ça marchera jamais. Si on refuse d'être insoufflé par l'esprit dans notre manière de nous voir, ça marchera pas. C'est même pas la peine d'essayer. Et ce matin, et c'est ma conclusion, je finis comme ça en disant, qu'est-ce que tu choisis? Et qu'est-ce que moi, Élise, je choisis? Parce que Seigneur, je vous prêche ce matin, mais moi, j'y suis confrontée aussi. Et un jour, j'ai fait l'expérience. J'ai dit à Dieu, je fais montre-moi. Une fois, je fais l'expérience comme ça. Une personne, vraiment, c'est difficile pour moi, honnêtement, c'est difficile pour moi de la supporter. Mais j'ai dit à Dieu, je sais que toi, tu l'aimes. Alors, montre-moi ce que tu aimes bien chez cette personne. Eh bien, ni une ni deux, la nuit même, j'ai un songe et Dieu me dit ce qu'il aime bien chez cette personne. On se fait tous cette demande-là à Dieu. Alex, la semaine prochaine, tout le monde prend le micro et peut dire « j'ai reçu un songe ». Non, mais c'est vrai, Dieu, il veut nous voir être comme ça. Il va vite parler. Demande-lui en disant « lui, j'ai du mal à le supporter ». Bah, demande à Dieu « qu'est-ce que tu aimes chez cette personne ? En quoi elle t'est précieuse ?» Tu vas voir, Dieu, il va te parler, mais illico presto. Il va te répondre super vite. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut se voir au travers de nos lunettes charnelles, ou est-ce qu'on est prêt à remplir le défi de se voir au travers de lunettes spirituelles, au travers de lunettes remplies d'amour, remplies de compassion, remplies de miséricorde? Qu'est-ce que tu choisis comme paire de lunettes ce matin? Est-ce que tu veux être avec des lunettes, avec des verres qui te donnent un champ rétréci? Ou est-ce que tu veux être avec une paire de lunettes qui te donne un champ large? Et plus tu acceptes un champ large, plus tu acceptes les lunettes de Jésus, plus ça va marcher. Amen. Amen.